Bonjour les mycosos, comment allez-vous aujourd'hui? Où que vous soyez, nous sommes là pour vous, dans ce monde merveilleux de la mycose.
Oh là là, c'est gênant.
Avec Claire Fégreux, Jean-Jacques.
Et Élodie Font.
Cette semaine, nous nous attaquons à un objet qui vous sert peut-être à rentrer en contact avec nous.
Tu vas parler avec cette voix pendant toute l'émission, juste ou pas?
Le téléphone. Le téléphone, de sa naissance à sa superpuissance mondiale, du fait qu'il a changé la vie de Claire et un peu la mienne aussi, de ce qu'on lui doit et de ce qu'il nous met dans la tête, mais ne déflorons pas tout.
Déflorer, comme les roses.
Alors le téléphone, historique rapide de son historique.
Ça se répète.
Il est né en 1876, un 14 février, ce qui explique peut-être le nombre de Saint-Valentin passé collé à lui. Et son inventeur s'appelle Alexander Graham Bell. Même si c'est pas de peau pour un autre anglais, Elisha Gray, qui a déposé le même brevet soi-disant 2 heures plus tôt, mais l'avocat de Bell aurait été plus rapide pour que l'on examine sa demande. Imagine les boules. Ceci dit, il y en a aussi d'autres qui évoquent la transmission de la voix à travers un combiné, même plusieurs années avant, donc la paternité de cet objet est un petit peu floue, mais faisons comme tout le monde, gardons. Depuis, je vous le fais en avance rapide, il y a eu les cabines téléphoniques, les téléphones manuels où au bout du fil, une opératrice vous passait votre correspondant, les premiers téléphones sans fil dans les années 50 et l'explosion du portable en 2000.
Boum.
Jusqu'à la popularisation des smartphones à partir de 2010. Et en même temps, la chute des cabines téléphoniques.
Aïe.
De 300 000 en 1997, elles sont zéro. Aujourd'hui,
ouais, c'est fini.
A priori, elles devaient toutes ne plus fonctionner d'ici à la fin 2017. Donc là, comme on est en 2018, il ne devrait plus y en avoir aucune. Il y en a quelques-unes qui se sont transformées en mini-bibliothèques, mais on ne peut plus appeler à l'intérieur. À l'origine, à la fin du 19e, elles étaient construites en chêne. Je trouve ça assez rigolo, avec des accoudoirs en velours.
Ah ouais.
Bon, ça faisait un moment qu'elles étaient moins cosy, on ne va pas se mentir non plus.
Je vais appeler mon banque à Paris. 10 000 dollars, inutile. Un franc, très utile. Regardez. Bonjour, c'est Macadam. Un kebab me rappelle au 90 42 24 24, par le 16. Merci. Vous aussi, vous pouvez vous faire rappeler dans une cabine.
Moi, j'ai plusieurs souvenirs de ces cartes à puce dont le décompte était assez rapide. On ne pouvait pas rester 150 ans au téléphone, mais en même temps, on n'était pas chez soi, personne ne pouvait nous entendre. Moi, je me souviens d'un sentiment de grande liberté. Je faisais ça quand j'étais en vacances. Et la liberté, on la trouve donc aujourd'hui ailleurs, puisque Orange, qui exploitait en France les cabines, s'est rendu compte que les cabines étaient utilisées moins d'une minute par jour.
Mmh.
Et régulièrement dans des affaires de vol, de banditisme, pour être moins facilement traqué.
Ah, la cabine téléphonique, ce truc de bad guys. C'est vrai que maintenant, quand je pense cabine téléphonique, je peux pas m'empêcher d'imaginer un type en imper beige saisir le combiné. Et c'est marrant, n'empêche, parce que le téléphone est hyper présent dans le cinéma, dans les séries, même pour moi, qui ai vu quand même genre environ 4 films et demi dans ma vie. Parce que quand même, le premier film qui m'a traumatisé, c'est ça.
E.T. téléphone maison.
La vérité, c'est que quand on a parlé de cette émission, Claire, elle m'a dit cette phrase. Il y a vachement d'histoires autour du téléphone de Colombo.
Bah, j'avoue, je suis coincée dans une sorte de faille spatio-temporelle. Mais quitte à parler de jadis, tu vois, bah, parmi tout ce dont tu parlais, dans tous les téléphones qu'il y a eu, ce gros téléphone blanc, là, fixe, enfin, fixe, sans fil, mais ce qui a déjà été une révolution pour nous, ce téléphone-là, présent dans toutes les maisons américaines parfaites, dans un sens, c'est vraiment l'incarnation de la pop culture américaine. Ce monde où les ados commandaient des pizzas au téléphone après avoir fait du pop-corn dans la cuisine américaine, donc, avec un gros chien dans les pattes et qui passait le permis à 16 ans, et qui avaient des casiers dans leur collège qui pouvaient décorer. Je m'égare un peu, mais c'est vrai que pour moi, ce téléphone, en tant qu'objet du cool que les enfants d'une même famille se battent pour répondre en dévalant l'escalier en chaussettes rigolotes, ça, c'est vraiment l'incarnation du mytho par excellence, le mensonge total. Notamment parce que chez moi, faut bien dire qu'on se battait pour ne pas répondre au téléphone. Mais bref.
Vous avez appelé le bureau du bonheur, ne quittez pas.
Or, qu'est-ce que la pop culture américaine a pondu d'autre aux adolescents des années 90? Le film d'horreur. Alors soyons honnêtes, dans mon top 2 des trucs que je déteste dans la vie, il y a les coups de téléphone et les films d'horreur. Tu fais hyper bien le film d'horreur. Donc c'est mon top 2, ça se tire la bourre. Et puis, forcément, ce qui devait arriver arriva. Et les 90s nous pondirent le film d'horreur à base de téléphone. Combo de la mort pour moi. Et dont, forcément, la saga culte Scream, qui commence par une jeune femme blonde pour qui tout va bien. Logique, elle est blonde parce que tout va bien. Et qui répond au téléphone où une voix inconnue lui demande
« Quel est ton film d'horreur préféré ?»
Et donc blablabla, tout le monde meurt.
Non mais alors attends. Parce que autant je t'ai laissé dire que c'était un mytho, ces gens qui se battent pour répondre au téléphone, alors que clairement, moi j'adorais qu'on me dise « Allô, Madame Fon ?» Je me sentais mais si grande. Mais là tu peux pas dire que tout le monde meurt dans Scream. Justement non. Sinon il n'y en aurait pas eu 4, sinon ce serait pas autant attaché au personnage, sinon la vie dans son intégralité aurait été différente. C'est pas possible de dire ça.
Oh oui. Ça aurait été très différent.
Alors, bien sûr, il y a d'autres films d'horreur hyper connus qui sont à base de téléphone. Par exemple, dans The Ring, le pitch, c'est « Une mystérieuse cassette vidéo serait porteuse d'une étrange malédiction. Quiconque la visionne est condamné à mourir 7 jours plus tard par un coup de téléphone. » Pourquoi les gens regardent ça? Je comprends pas. Dans Phone Game, un tueur enferme ses victimes dans une cabine téléphonique et exige de lui qu'il avoue tous ses mensonges.
« Ils viennent déjà de tuer un otage. »
Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Et pire encore, dans Buried, un homme se retrouve enterré vivant avec une torche et un téléphone portable à moitié chargé. Et il doit réunir 5 millions de dollars s'il veut espérer sortir de là.
Oh, attention chérie, ça va couper.
Et pourtant, Scream, ça reste pour moi le vrai truc symbolique. Parce que, bien sûr, le téléphone, en termes de cinéma, c'est la possibilité d'avoir un tueur qu'on ne voit pas et qui, en même temps, est omniprésent. C'est très puissant, cinématographiquement parlant. Mais je pense que le côté culte générationnel tient aussi au fait que, ouais, ça transformait en objet de terreur ce téléphone qui était, par ailleurs, le symbole d'une vie parfaite. Un outil avec lequel les adolescents se donnaient rendez-vous le samedi au centre commercial. Et parenthèse, qui fait ça ? Quand tu es adolescent, tu n'es pas doté d'un pouvoir d'achat, donc pourquoi le centre commercial ?
Bah pour regarder les gens passer. Tu sais, nous, on allait sur les marches d'une église, donc tout est possible.
Bon, d'accord. Et puis, j'ai lu un papier de Hugo Sadi dans Télérama qui revient sur la saga de Scream, qui a quand même duré de 96 à 2011. Et on se rend compte qu'en 15 ans, ce qui a vraiment changé, c'est que la phrase, la première phrase au téléphone qu'on se dit, ce n'est plus « c'est qui ?» mais « t'es où ?» Un réflexe lui-même probablement en voie de disparition, puisqu'on est de plus en plus précisément géolocalisé par nos téléphones. Du coup, je me demande ce que sera la prochaine phrase téléphonique témoin de son époque technologique. Peut-être qu'on pourra se balader dans le temps et s'appeler du futur ou du passé, et que la première phrase ce sera « Allô, t'es quand ?»
Alors là, respect. C'est le truc le plus profond que j'ai entendu depuis longtemps. Je pense qu'on peut stopper l'émission maintenant et raccrocher.
Allô ? Allô, il n'y a personne au bout du fil. Faut réfléchir, McFly.
Je me souviens de mon premier forfait de téléphone avec 10 SMS par mois.
Je me souviens que j'ai eu un portable hyper tard et que c'était pas un Nokia et que je pouvais pas jouer au serpent.
Allô, le téléphone secret, c'est un jeu électronique avec un téléphone qui parle. Pour gagner, appelle les copains, récupère tes indices et devine qui est ton amoureux.
Il aime le sport.
Qu'est-ce qu'il a dit, c'est mon secret?
Je me souviens de ce jeu que je rêvais trop d'avoir.
Mais moi aussi, ma voisine l'avait. Et même si elle avait un labrador et que j'avais peur des chiens, j'allais quand même chez elle pour pouvoir jouer à ce jeu et savoir qui était le mec tout droit sorti de Beverly Hills qui était mon admirateur secret. C'était ouf.
Ah oui, c'est peut-être pas plus mal que je l'ai pas eu en fait.
Je me souviens que les textos étaient limités en termes de signes et que du coup fallait pas avoir trop une pensée complexe, digne de Macron, ou pas trop s'engueuler par texto parce que ça devenait vite problématique et aussi qu'au début fallait appuyer sur des touches pour écrire et genre il y avait la touche ABC que tu tapotais 3 fois pour obtenir un...
Un C. C'est marrant, n'empêche, ce truc du langage SMS qui est resté un peu comme un oripo d'une époque, de notre époque en fait. Parce que les SMS, à l'origine, c'est 160 caractères, la limite. Et c'est d'ailleurs pour ça que les 140 caractères de Twitter existaient, à la base. Twitter, ça a été pensé, en fait, pour tweeter par SMS au début. Donc ça n'a jamais vraiment pris, finalement, puisque en fait, il y a eu le smartphone. Mais l'idée, c'était de pouvoir mettre son pseudo plus son tweet dans un SMS. Donc, en gros, 140 caractères plus 20 de plus, un peu de rab, pour ton pseudo, ton nom. Voilà, mais c'est bien parce qu'on payait chaque SMS cher qu'on a commencé à utiliser un langage SMS réduit pour pouvoir tout faire tenir dans un message.
TKT. T'es qui ? MDR.
C'est marrant que ce soit resté parce qu'aujourd'hui, ça va quand même pas tellement plus lentement d'écrire « je rigole » que « lol » sur un téléphone. Et pourtant, ça reste. Alors que les gamins d'aujourd'hui n'ont pas vécu ça. Tu sais, ça me fait penser au truc des singes, là.
C'est quoi le truc des singes? Si c'est un truc scientifique, c'est assez bien vendu.
Ah, c'est alors, plus ou moins scientifique. Tu sais, c'est le théorème du singe. En fait, c'est une expérience scientifique imaginaire, donc qui n'a pas été faite, mais qui permet d'expliquer un principe. L'idée, c'est que tu mets 20 chimpanzés dans une pièce, avec une banane accrochée au plafond et une échelle. Mais dès qu'un chimpanzé tente d'y monter, il y a une douche glacée qui tombe sur toute la pièce. Donc les chimpanzés, ils captent que pour éviter la douche glacée, ils ne doivent pas monter sur l'échelle.
Malin comme un singe.
Mais ensuite, on supprime le système d'eau glacée. Or, les chimpanzés n'y montent plus parce qu'ils ont intégré le truc. Après, on remplace un des singes qui essaye de monter pour attraper la banane, mais ses collègues singes l'en empêchent. Petit à petit, on remplace tous les singes jusqu'à avoir remplacé la totalité des chimpanzés dans la pièce. Et plus aucun ne tente d'attraper la banane. S'il y en a un qui essaye, il se fait arrêter par ses copains, alors que pourtant, aucun d'entre eux n'a vécu l'eau glacée. Donc voilà, ça me fait penser au fait d'utiliser le langage SMS aujourd'hui quand on a 20 ans en 2018, sans avoir connu le besoin de faire court. Je trouve ça rigolo.
C'est complètement fou. Ça marche aussi avec les robots, figure-toi.
Tu crois que dans les textos aujourd'hui, on utilise l'écriture inclusive?
Moi, ouais.
Toi, tu l'utilises?
Juste pour faire chier l'Académie française.
Dans ce bel élan de philosophie, je pense que c'est le moment de te l'avouer, de vous l'avouer. J'ai écrit une lettre à mon portable. Est-ce que je peux te la lire?
Ah bah je suis contractuellement obligée de dire oui.
Attention. Cher portable, j'avais donné un prénom à mon scooter, mais toi, bizarrement, je ne t'appelle pas.
Ok, déjà la meuf a eu un scooter, tranquille.
C'est toi qui m'appelles, toujours avec la même sonnerie, celle avec laquelle tu harcèles des millions d'usagers à travers le monde, celle qui me fait te regarder, encore et encore, alors même que ce n'est pas toi qui me sonne. Je pourrais être jalouse, mais je sais que l'on a des secrets qui n'appartiennent qu'à nous. Ces notes où j'écris mes courses, mes idées de chronique, la liste des podcasts que j'ai pas le temps d'écouter, une idée de cadeau pour Noël prochain même si c'est dans 12 mois. Je sais qu'il n'y a que toi qui sais ce que j'aime vraiment musicalement. Il n'y a qu'avec toi que je partage certains fantasmes. Enfin, qu'avec toi et avec Apple. Je vais pas te mentir, dès que t'es pas dans mon champ de vision, je me sens mal. Il n'y a que quand t'es dans ma poche, dans mon sac là près de moi, que mon cœur retrouve un rythme cardiaque normal. Tu me fais vibrer, mon doudou, mon portable. Tu me fais voyager chaque soir, je te mets en mode avion et ensemble on s'apaise, on s'endort. Il n'y a que quand moi je voyage que j'aimerais que tu sois mort. Mais même au bout du monde, même quand j'en peux plus de tes notifications à la con, c'est toi qui me réveille, c'est toi qui me guide, c'est toi qui me conseille où manger et quel musée faire semblant de visiter. Je t'ai en main, je t'ai en moi, tant que parfois j'ai des fourmis dans les bras. Et pourtant, ne t'attache pas trop, c'est que dans un an tu vas commencer à être trop lent, à me lâcher en plein milieu d'une conversation, en t'éteignant alors que juste avant t'avais encore 20%. T'auras toujours la même sonnerie, mais t'auras plus de batterie. Me regarde pas comme ça, c'est ton créateur qu'il faut engueuler. Putain d'obsolescence programmée.
Waouh, c'est beau comme du Shakespeare, Elodie. Être ou ne pas être en mode avion. Ou du Racine.
Ouais, du Racine. Je
préfère. Attends, je te le fais. Songe, songe, Céphis, à cette nuit cruelle, où me levant la nuit d'un besoin naturel, je fus soudain saisi par une immense peine quand mon Nokia tomba dans la cuvette pleine.
Il faudrait peut-être consulter, non? Et si tu veux que ta batterie dure plus longtemps, éteins ton téléphone la nuit, banane. Bande de singes.
Je reviens à mon histoire de fourmis dans le bras et d'oreilles qui chauffent. Et quand même, ça fout un peu les boules, ces fameuses ondes dont on nous dit que non, 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 rien ne prouve qu'elles soient complètement mauvaises pour notre cerveau. Mais en parallèle, t'as régulièrement des études qui indiquent qu'éloigner les enfants de moins de 3 ans de ces mêmes ondes, c'est quand même plutôt positif pour leur santé, qu'il vaut mieux ne pas mettre près de sa tête le téléphone quand vous êtes dans un train, quand vous êtes dans un espace où il y a assez peu de réseau, puisque ça cherche évidemment le réseau, et que vous allez manger encore plus d'ondes, que ça renforce les risques de cancer, et notamment du cerveau, que le Wi-Fi aussi est très pratique, mais qu'il émet en permanence des micro-ondes un peu partout où on va être. Et selon une étude anglaise, avoir son téléphone dans sa poche réduirait de 8% la mobilité des spermatozoïdes. Ce qui est déjà assez dingue comme chiffre.
C'est pour ça que mon téléphone est tout le temps éteint. Pas de risque.
En parlant de reproduction.
Mimicose.
Jean-Jacques, est-ce que tu sais ce que m'a envoyé Claire il y a quelques semaines?
Hélas, non.
Eh ben, il y a les serpents américains qui sont touchés par une mycose géante. Une mycose mortelle et qui fait des champignons sur leur peau. J'en ai encore des frissons. Les images sont atroces.
Merci Claire. Va pas nous dire après que tu es débordé.
Alors que le dernier texto que m'a envoyé Elodie, c'est « Je suis là dans 10 minutes déso, PS, il y a une meuf avec des chaussures zèbres dans le métro, ah ah ah, smiley qui rigole, smiley qui rigole, smiley qui pleure. » Pardon, d'ailleurs, depuis qu'on a les émojis dans nos téléphones, je crois que l'échelle des réactions humaines est totalement partie en sucette. Parce que des chaussures zébrées, ça vaut éventuellement un émoji mou qui tire vers un léger rictus. Bon, si t'es de bonne humeur. Mais pleurer de rire, je dis non. Je dis stop. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a tout décalé vers le guilleret. Si tu dis la moindre phrase sans un petit smiley, les gens te considèrent comme si t'avais parlé comme Cruella en chemin pour la SPA.
Ouais, mais elles étaient marrantes, ces chaussures.
Et sinon, c'est le moment où je sors de mon chapeau cette petite news insolite. Le sachiez-tu ? En juin 2017, ça s'est passé au Zimbabwe, où un certain Paul Sonyagor, le pasteur, s'est mis à téléphoner à Dieu en pleine messe. Donc le mec a sorti, vraiment ça a été filmé, il a sorti son portable et il fait « Allô, c'est le paradis ? C'est le paradis !»
Il a trop écouté Miko The Night en fait.
Ouais, probablement. Alors évidemment, il a rapidement été accusé d'arnaque. Quand on lui a demandé quel numéro il avait appelé, il a dit « Il ne s'agit pas d'un numéro de téléphone, il ne s'agit pas de connaître un numéro, cela concerne ma relation avec Dieu, tout le monde peut appeler Dieu. » Bon, alors on pourrait se dire « Ok, évidemment, le mec fait une métaphore, sauf qu'en fait, le type a l'air d'être hyper premier degré, vu que, visiblement, il gagne même du pognon sur le dos de ses fidèles en faisant croire qu'il fait des miracles. » Et moi, j'ai envie de dire déjà, croire en Dieu, j'étais pas chaude. Mais si en plus, c'est un numéro surtaxé, je dis non.
Cet appel vous sera facturé après le bip sonore, 80 centimes d'euros par minute, plus le prix normal d'un appel.
Bah t'inquiète, si on n'a pas de téléphone fixe, et t'as pas de téléphone fixe.
Non.
Bah, a priori, tu devrais pas être trop embêté par le démarchage de Dieu, ou d'un vendeur de hôtes de cuisine, ou que sais-je.
Bonjour, c'est François Hollande qui vous parle. D'abord, pour vous remercier pour votre participation aux primaires citoyennes qui m'ont donné la légitimité de conduire cette campagne au nom, bien plus que des socialistes, au nom de la gauche.
Un vrai message de François Hollande, figure-toi, le 30 ou le 31 décembre 2011, à tous les sympathisants socialistes qui avaient voté à la primaire socialiste et qui avaient laissé leur numéro et qui ont cru à un gros fake, mais c'était bien Hollande qui leur avait laissé un petit message. Ceci dit, c'est pas si rare. Même si c'est pas forcément sous la forme d'un message téléphonique, faut y aller là quand même pour le message téléphonique, mais des textos de députés, de ministres, ça arrive de temps en temps, toujours plus près des électeurs.
Cœur, cœur.
Shakespeare.
Et ne serait-ce pas du coup le moment du point gauchisme ?
Bien sûr que
oui.
Dire,
bien sûr. Oui, parce que le téléphone, il est aussi au cœur de la fracture sociale. C'est cette fameuse fracture numérique, c'est-à-dire la disparité d'accès aux technologies informatiques, notamment Internet, qui passe aujourd'hui de plus en plus par le téléphone. Alors des inégalités d'accès, il y en a bien sûr partout dans le monde, mais si on se penche même juste sur la France, sachez que le mouvement Emmaüs a lancé un service qui s'appelle Emmaüs Connect, qui estime qu'il y a une vraie exclusion numérique aujourd'hui, que 26% des Français sont en difficulté numérique, et ils disent ça, je cite, « Parce que le monde réel et virtuel s'entremêlent et que le digital impacte toutes les facettes de notre vie, nous voulons contribuer à une société moderne et solidaire où le numérique est aussi une chance pour les plus démunis. » Et c'est vrai qu'il faut dire qu'avec la multiplication des smartphones, la baisse des coûts d'accès à Internet, on a un peu cru que ça y est, c'était open bar, c'était accessible à tout le monde. Et résultat, des services comme la CAF ou comme Pôle emploi se sont de plus en plus dématérialisés. Oui. Alors pour moi, je dis très bien, puisqu'en 2018, si je devais aller faire une photocopie de ma fiche de paye à la poste pour la déposer physiquement au Pôle emploi, ça me rendrait dingue. Mais en même temps, en vrai, ça creuse les inégalités d'accès au numérique. Du coup, bah, Emmaüs, entre autres, ils mettent en place des formations. Et puis ils vendent aussi des recharges moins chères pour se connecter à Internet ou de téléphone avec un accompagnement. Bref, c'est un boulot hyper important aujourd'hui dans le domaine de la lutte contre l'exclusion.
Salope pauvre.
J'aurais pas dit mieux, t'as vu.
Et d'ailleurs, quand tu vas au Pôle emploi, ce qui m'arrive assez régulièrement, il y a une solidarité entre les gens qui savent très bien se servir d'Internet et les gens qui, clairement, ont beaucoup de difficultés à utiliser des ordinateurs, puisqu'il y en a plusieurs qui sont en accès libre. Et j'ai souvent vu des gens essayer d'aider les autres. Pour le coup, là-dessus, je trouve qu'il y a une certaine solidarité.
Il y a aussi ce truc étrange où tu vas à Pôle emploi pour ne pas régler un problème par téléphone, tu fais la queue et on te dit d'aller déclarer ton truc au téléphone fixe qui est dans le Pôle emploi.
Ah bah ça, pour le coup, le Pôle emploi et le téléphone, ne m'en parle pas.
Jusqu'à fin 2017, en France, il existait des tarifs sociaux d'accès à l'électricité et au gaz, qui s'appellent aujourd'hui des chèques énergie. Et ça existait aussi pour le téléphone. Donc a priori, tous les opérateurs avaient passé un contrat avec l'État pour proposer des tarifs beaucoup moins chers, comme par exemple le forfait bloqué spécial RSA d'Orange. Alors, ils communiquaient assez peu dessus, bien sûr. Le problème, c'est que ce forfait-là, par exemple, le forfait RSA, c'était 10 euros par mois pour 40 minutes d'appel en France métropolitaine, plus 40 SMS. Donc, aujourd'hui, en vrai, les offres low-cost ont explosé l'intérêt de ces deals-là. Le problème, c'est que moi, je suis hyper connectée, je change d'opérateur à peu près tous les ans parce que bim, il y a une offre moins chère, je paye jamais plus de 10 euros par mois. Seulement, encore une fois, ça souligne l'importance du boulot que fait Emmaüs Connect. Puisque ces bonnes affaires et tout, moi, j'y ai accès parce que j'ai eu le privilège de naître avec plus ou moins un clavier d'ordinateur sous les doigts. Et c'est pas le cas de tout le monde. Donc, l'accès à l'information reste un truc primordial.
Ok, donc dans ta famille, si on résume, hein, parce qu'on avance quand même sur des recherches généalogiques sur toi, il n'y avait pas le téléphone, enfin c'était compliqué, mais par contre l'ordinateur, oui.
Ah oui. T'imagines quand la possibilité de communiquer avec le monde extérieur sans avoir à ouvrir la bouche est arrivée. Excuse-moi, on s'est un peu jeté dessus.
Mais t'aurais peut-être pu vivre sans téléphone.
Il y a téléphone et téléphone. J'adorerais vivre sans le téléphone où on parle, mais j'adore le smartphone.
Parce que c'est devenu un mode de vie pour certains, ou en tout cas une conviction politique de vivre sans téléphone et sans smartphone, donc on peut pas choisir comme t'aurais envie de le faire. Souvent parce qu'ils ont l'impression que l'on entre dans leur vie privée, ce qui est le cas, qu'ils peuvent être pistés absolument partout, ce qui est le cas, ou alors que c'est dangereux pour la santé, on en parlait tout à l'heure, que l'on passe déjà beaucoup de temps sur les écrans dans une journée, parce qu'on en a besoin pour notre travail, et donc si on peut faire autre chose quand on rentre chez soi, c'est pas forcément plus mal. Bon, alors c'est pas le cas de tout le monde, puisque la moyenne l'an dernier, c'était qu'un Français regardait 26,6 fois par jour son téléphone en moyenne.
J'adore le 0,6, ça c'est quand tu fais genre... Non, je regarde pas. Cela dit, moi je pense que je comprends ces gens, mais je pense que le téléphone portable m'a à moitié sauvé la vie, parce que... Enfin, ce que je disais, c'est que tout ce qui dans le téléphone ne sert pas à téléphoner, c'est génial. Donc on s'en tape un peu de 36-15 ma life, mais je raconte quand même parce que peut-être que je suis pas la seule. Parce que quand même, petit miracle, grandir dans les années 90 du fameux téléphone cool américain là, et avoir peur des gens, peur de parler au téléphone, une peur en vrai pas loin d'atteindre une sorte de handicap social. Bon, imagine ça et d'un coup, mais alléluia, on invente le SMS et Internet.
Alléluia.
On est avec toi là, on est dans l'histoire.
Et Twitter. Où, en gros, on ne voit pas ta tronche et on te lit avec des mots. Mais bim, mais la revanche sur la vie! Parce que, admettons-le, en fait, si ces trucs-là n'avaient pas existé, non seulement, clairement, je vendrais des patates dans une cave, plus ou moins, mais en plus, j'aurais jamais pécho.
Alors que maintenant, tu chopes grave. Hein?
Moi, j'ai une autre toute petite angoisse, c'est que je ne peux pas répondre au numéro inconnu. Le pauvre, quand même, quand on y pense, ce numéro inconnu.
Oh, pauvre chouchou. D'ailleurs, tu vois comment on rend hommage aux soldats inconnus ? Mmh. Ben, j'aimerais qu'on rende hommage aux numéros inconnus. Tu viens à moi toujours, je ne réponds jamais. Je te regarde là, clignoter sans succès. Tu t'affiches vainement, je ne décroche pas. J'ignore d'où tu proviens, je te google parfois. Soudain, je réalise que c'est très important. Ma mutuelle, mon patron. Et au dernier moment, je décide soudain de décrocher. Mais là, tu as déjà fini de sonner. Et narquois, tu me laisses un message. Oui, salut, c'était moi. Devais-je donc savoir que tu ne cachais pas un spam indésirable, un appel hyper chiant, du genre c'est un sondage sur les couches pour enfants? Alors je t'abandonne, solitaire et déçu. On est un peu pareil, numéro inconnu.
Mycose. The Night.
Mesdames et messieurs les mycoses, bonsoir. Vous qui êtes nombreux et beaux et forts dans notre émission ce soir, un débat, un vrai, un débat grave, profond, de société. Une question ce soir, chers mycoses. Doit-on regarder les textos et l'historique du téléphone de son compagnon et ou de sa compagne ? À ma droite, elle va nous éclairer sur sa position polémique. Claire Fégreux est pour espionner son mec.
Mais j'ai jamais dit ça. J'ai dit que je l'avais fait une fois, j'ai pas dit que j'étais pour.
Ouais, d'accord.
Fake news.
En face, elle est juge et partie puisqu'il s'agit de moi-même. Je suis absolument contre l'espionnage industriel. Et voici donc le débat. Tu vois, moi, je pense que si tu regardes les SMS de l'autre, déjà, c'est parce que t'as pas confiance. Donc, tu vois, t'es dans une relation qui te fait souffrir. Donc, c'est absurde.
Ah bah oui, oui, je suis d'accord.
Aussi, tu tombes souvent sur des trucs un peu gênants quand tu regardes. T'as pas envie de savoir. Et puis alors, j'aimerais pas du tout qu'on me le fasse. J'aurais l'impression de me sentir complètement nue. D'ailleurs, je pense que se faire voler son portable, ça doit être une vraie intrusion dans sa vie privée, Claire.
Ah bah oui, oui, je suis d'accord.
Et d'ailleurs, c'était quand même plus drôle quand t'étais au début de la relation et que tu te demandais « Qu'est-ce que je lui réponds ? Regarde, elle m'a écrit ça. » Et t'étais pas en train de regarder sur son portable. Tu pouvais pas, t'étais pas en train de vivre avec.
Ah bah oui, oui, je suis d'accord.
Merci beaucoup, c'était Le Débat.
Eh bé, ça c'est du journalisme.
Tu sais que ça me fait halluciner qu'il y a encore des pages jaunes. Il y a encore 20 millions d'annuaires imprimés chaque année en France.
Bah je sais pas, moi visiblement je compte pour du beurre parce que j'en ai pas reçu depuis 10 ans, mais...
Ah ouais ?
Au moins d'ailleurs, au moins 10 ans.
Chez moi, ils ont livré des camions entiers. Et d'ailleurs, tu sais pourquoi les pages jaunes sont jaunes ?
Nous sommes suspendus à tes lèvres, Claire.
D'après Philippe Vandel, à la base, c'est la compagnie du téléphone américaine en 1883 qui a demandé à un éditeur d'imprimer le premier annuaire local. Or cet imprimeur, bim, il a plus de papier blanc, seulement du papier jaune. Du coup, eh ben c'était parti. On a gardé le jaune au fur et à mesure du temps. Un peu comme si on écrivait toute cette émission sur du PQ rose, juste parce qu'une fois, on n'avait plus de batterie et on avait eu une idée au mauvais moment.
Déjà, le PQ rose, c'est pas possible. Et ensuite, on le dit, on le répète, on le ré-répète. Non, 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 pas de téléphone portable dans les toilettes. Même les toilettes de l'école, oui. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a son portable à l'école, dès le collège, parfois même dès le primaire. Et ça pose énormément de questions aux parents que nous ne sommes pas. Alors le gouvernement s'en mêle et a priori, à la rentrée prochaine, en 2018, le portable va être interdit de l'école et du collège, pas du lycée. En tout cas, interdit en cours. Hein. Les élèves pourront les laisser dans leur casier. Il faut encore qu'ils aient des casiers. D'ailleurs, ça pose un certain nombre de problèmes dans pas mal de collèges. C'est une question qui pose de nombreux soucis parce que d'un côté, on sait que mettre les enfants devant un écran avant l'âge de 7 ans est potentiellement mauvais pour leur développement, pour leur santé, pour leur imagination. Sauf que les parents, ils ont tout le temps, eux, un téléphone à la main. Donc forcément, leurs enfants s'en emparent et jouent avec avant de savoir parler. Surtout que c'est très intuitif. Hein. C'est fait pour être extrêmement simple d'utilisation. Il y a eu cette étude il y a quelques mois assez effrayante, je dois dire. Les parents accros à leur portable parleraient moins avec leurs enfants. Et donc ces enfants, ils apprendraient moins de mots et développeraient plus lentement le langage. Et derrière, c'est toute l'élaboration de la pensée qui est compliquée. Donc c'est grave pour le développement de ces enfants. Et là où c'est compliqué, c'est qu'il n'y a pas les gentils et les méchants, bien sûr, dans l'histoire. Je vais reprendre l'exemple d'un collégien. Vous êtes parent, vous êtes contre le portable. Vous n'êtes donc pas Claire Fégreux. Ok, mais tous ses amis en ont. Donc comment vous faites ? Comment vous luttez ? Comment permettre aujourd'hui de façonner son identité sans portable ? Et puis, c'est un formidable outil de connaissance, c'est vrai. De tutos, d'apprentissage du monde,
ah,
on peut
voilà.
Apprendre plein de choses. Et en même temps...
Écouter des podcasts,
écouter Miko The Night. Et en même temps, un portable, tout le temps, quand on a 12 ans, c'est aussi... favoriser le harcèlement scolaire. Donc c'est pour ça que je dis, c'est pas blanc ou noir, mais c'est assez compliqué parce qu'il y a des arguments pour et des arguments contre. Il y a des cas d'enfants qui reçoivent des centaines de messages d'insultes par jour. Donc c'est avoir accès à tout et à n'importe quoi, aux théories du complot, aux messages de fanatiques à un âge où on est généralement moyennement bien dans sa peau. On peut le transposer à tous les âges. Est-ce que parce que l'on a toujours nos portables, nous sommes obligés de répondre à des mails de travail passés 20 heures. Combien d'entre nous le font quand même ? Combien d'entre nous se réveillent en regardant qui leur a écrit dans la nuit, comme si ça ne pouvait pas attendre une demi-heure, le temps d'aller prendre sa douche, le temps d'aller prendre un petit-déj ? Bon, je m'enflamme peut-être un peu, mais je pense que c'est vraiment un outil aussi, on se sent un peu esclave de notre portable aujourd'hui.
Oui. Et c'est vrai, et en même temps, en parlant de s'enflammer, j'ai plus ou moins la pire transition de l'histoire de la transition, puisque j'allais parler de crémation.
Bien vu, Jeanne d'Arc.
Enfin, c'est presque vrai, puisque j'avais parlé du site Obsèque Info, sur lequel j'ai appris que les Égyptiens, à une certaine époque, enterraient leurs souvenirs avec des bijoux et de l'or, et que ça a inspiré d'autres cultures. Résultat, aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que soit tout ce qui est enterré avec le défunt peut lui servir dans l'au-delà, soit qu'il est important d'enterrer quelqu'un avec des objets qui étaient primordiaux pour lui, comme un téléphone. Et donc, il y a des gens qui demandent à enterrer leurs proches avec leur téléphone. Alors, le site précise que c'est pas trop possible et que pas mal de communes interdisent d'enterrer tout objet non biodégradable, comme les appareils électroniques. Et par ailleurs, j'ai lu ça. À Taïwan, où certains rites funéraires exigent que le défunt soit accompagné d'objets personnels dans l'au-delà, le S-Phone est un iPhone en carton vendu à cet unique usage. Mais je n'ai absolument rien trouvé corroborant cette information. J'ai essayé d'acheter ce truc, je ne l'ai jamais trouvé.
Quelle rigueur.
Alors, quitte à partir sur des légendes, le téléphone a pas mal été présent dans toutes les histoires de peur d'être enterré vivant. Par exemple, la légende raconte qu'une certaine Mary Baker Eddy, fondatrice au 19e siècle de la science chrétienne, qui consiste globalement à tout soigner par l'effet placebo en appliquant les enseignements de Jésus, pour résumer.
Ça devait bien marcher.
Et ben la légende raconte que cette femme avait peur de se faire enterrer vivante et qu'elle avait fait installer le téléphone dans sa tombe au cas où. Le téléphone en question aurait été relié à une ligne spéciale qui sonnait dans la maison de Mary Baker Eddy et un jour, il aurait sonné. Résultat, la bonne serait littéralement morte de peur en entendant retentir la ligne du téléphone qui venait d'outre-tombe. Soit exactement la même réaction que moi devant n'importe quel coup de fil. Bon, en réalité, il semblerait que la vérité soit moins folle. Hein. Ce serait juste que son cercueil, en attendant que la tombe et le monument funéraire soient prêts, était surveillé par un gardien au cimetière pour éviter le vandalisme et que le gardien avait effectivement un téléphone installé là. Donc c'est beaucoup moins marrant.
Allô maman bobo. Allô maman bobo.
Ah ouais, Alain Souchon.
Ouais.
Non, parce que quitte à parler de téléphone...
Un jour, j'irai à New York avec toi.
Ouh. Et puisque tu nous parlais de Taïwan, juste un petit mot sur l'utilisation du téléphone portable sur le continent africain, parce que, comme chacun sait, Taïwan n'est pas en Afrique.
Pas du tout.
Depuis 2010, le téléphone mobile en Afrique a progressé de 70%. Autant te dire que pour les entreprises genre Orange, c'est un marché très juteux.
Ouh, Orange, juteux. Flaque 5 fruits et légumes par jour.
Alors là, on tutoie le sommet. C'est le haut du panier de cerises sur le gâteau.
Alors c'est un marché juteux, pourquoi ?
Puisqu'on estime qu'il y a la moitié du continent qui a un téléphone mobile, il y a encore la moitié à conquérir, évidemment, ce qui est un marché assez dingue. Mais au-delà des entreprises, ce qui est super intéressant, c'est que le fait que de plus en plus de citoyens aient un téléphone, ça leur permet de prendre des photos, de faire des vidéos, de s'informer bien plus facilement, et donc de remettre en cause les gouvernements, parfois en place depuis des décennies. Ça remonte un petit peu plus, mais par exemple en 2009, c'est un exemple que l'on peut lire sur le site de RFI, un massacre orchestré par l'armée en Guinée, dans un stade, je ne sais pas si tu as des souvenirs de cette boucherie, c'était horrible, filmé par des gens dans le stade, qui en réchappent. La vidéo fait le tour du monde, et conséquence, une mission d'enquête des Nations Unies, la Cour pénale internationale aussi sur le dossier et la justice qui s'est emparée du dossier, ce qui était une première en Guinée.
T'imagines, n'empêche, comment le téléphone aurait pu changer plein de trucs.
Ouais, salut grand-mère, c'est Chaperon. Alors écoute, je sais plus trop s'il faut que je prenne à droite ou à gauche après le tronc d'arbre. C'est de quel côté le loup qui saoule tout le monde là ? Ok, bon bah j'arrive. Ah non, pas de tire la bobinette, la chevillette machin là, non, je t'envoie un texto et tu descends, ok ?
Genre t'as du réseau dans la forêt. Bah tu passes pas souvent le périph', Claire.
Eh, casse pas mon histoire, j'essaye de résoudre des trucs, regarde.
Allô, monsieur Capulet, c'est Juliette, j'aurais voulu parler à Roméo s'il vous plaît. Ouais bébé, bah c'est pour te dire, alors donc, je fais semblant de mourir, donc je fais genre je ferme les yeux et tout, mais c'est du mytho. Donc toi tu fais genre t'es triste et tout, mais tu fais pas genre oulala je prends du poison et tout hein. Sinon après je me réveille, après moi aussi je fais genre je meurs avec ton poignard, nanan c'est chiant. Donc non on fait juste genre on est décédé et tout, et après rendez-vous 15h45 pour de la chapelle, ok?
15h45 les rendez-vous? Genre ils sont au chômage Juliette et Roméo.
Ils ont 14 ans Juliette et Roméo.
Bah fais gaffe, parce que s'ils cherchent pas de taf, ils vont avoir le pôle emploi et tous les macronistes derrière eux, et tu feras moins la maline.
N'empêche, je pense à un truc. Allô ? Ouais, c'est Dieu. Ouais, j'aurais voulu parler à tout ce qui est le genre humain, tout ça. Non, ouais, non, mettez-moi sur haut-parleur, hein, je vais pas me les faire un par un.
Bonjour, ici l'Humanité. Nous ne sommes pas disponibles pour le moment. Laissez un message après le bip, on vous rappellera.
Ouais, bonjour à tous. Donc alors, c'était Dieu. Et bah écoutez, deux, trois petites infos. Donc alors, premièrement, oui, je suis une meuf. Hein. Arrêtez de faire genre c'est une surprise, parce que vu la charge mentale que je me paye, en mode c'est ma responsabilité entière de gérer le monde entier, on n'est pas sur un scoop. Et à part ça, et bah qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, et bah arrêtez de vous foutre sur la gueule à cause de moi. Hein, parce que je sais pas si vous avez lu les petites lignes, tout ça et tout, mais je ne suis qu'amour, hein. Donc stop. Et puis par ailleurs, et ben comme j'existe pas, ce serait vraiment dommage de vous coller des nions à cause de mon blaze, quoi. Hein, donc voilà, bah on se rappelle, bisous.
Si ça se trouve, Dieu, il nous a laissé un message et on n'a juste jamais écouté le répondeur.
Ce serait vraiment dommage.
Cela dit, on a déjà eu un message de François Hollande, on peut pas tout avoir.
C'était Mycos the Night sur arteradio.com.
Avec Elodie Font,
avec Claire Fégre
et avec Jean-Jacques.
On est là, bébé.
On se retrouve dans 15 jours.
Enfin, si Dieu le veut.
Ou Shakespeare.
Ou Colombo.
Ou le patron.
Ou un numéro inconnu.
Salut les mycosos.
Salut Elodie.
Salut les jeunes.
Bon, vous avez compris, même si vous arrivez à choper le numéro de Claire, vous ne l'appelez pas. Jamais. Jamais de la vie entière. Jamais.
Comme.